Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un écrivain qui a eu une renommée extraordinaire en France, disons, on va dire en gros de 1950 à sa mort. Il s'agit de Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas sûr qu'on le lise beaucoup aujourd'hui encore, mais pour ceux qui en ont l'âge, rappelez-vous un peu le rayonnement qu'il pouvait avoir. Tout le monde parlait d'existentialisme, bien sûr, souvent sans savoir de quoi il s'agissait exactement. Et puis on disait les existentialistes. Trouverait-on beaucoup de personnes aujourd'hui capables de vous expliquer ce qu'était l'existentialisme? Et Jean-Paul Sartre a écrit un premier livre qui a eu du succès relativement en 1936, appelé « Le mur ». En 1943, il a écrit un énorme livre, L'être et le néant, oui, qui a été la Bible de l'existentialisme. Cette même année, en 1943, a été représentée sa première pièce de théâtre, Les Mouches. Elle a été jouée au théâtre qui était dirigé par Charles Dullin. Une pièce suffisamment ambiguë pour contourner la censure, et nous arrivons en 1944, plus exactement le 27 mai 1944, avec la création au théâtre du Vieux Colombier de la deuxième pièce de Jean-Paul Sartre, Huit clos. Cette pièce était créée par Tania Balachova, Gabi Silvia, Michel Wittold. Hasard de l'histoire, la première représentation, je l'ai dit tout à l'heure, a eu lieu le 27 mai. Les autres, eh bien, ont eu lieu après la libération de Paris. De quoi s'agit-il dans cette pièce? En un acte, Huit clos. Nous nous trouvons dans une salle. Il y a trois canapés. Et petit à petit, les personnages vont entrer en scène. Voici le début de la pièce. Un salon style Second Empire, un bronze sur la cheminée. Garcin, c'est le personnage masculin principal. Il entre et regarde autour de lui. Alors, voilà le garçon qu'il a introduit. Voilà. Garcin, c'est comme ça. Le garçon, c'est comme ça. Garcin, je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Le garçon, ça dépend des personnes. Et est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Bon, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas, dans des situations fausses, j'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Le garçon, vous verrez. Dans un salon Second Empire, ce n'est pas mal non plus. Ah! Bon, 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 bon. Tout de même, Je ne me serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Le garçon, sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, car enfin, si elles étaient venues. Oui. Le garçon redevenant sérieux, se dansant les pales. Quoi? Les pales, les krills, les entonnoirs de cuir, vous voulez rire, ah? Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace, pas de fenêtre, naturellement, rien de fragile. Et pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient, c'est formidable. Je vous prie de m'épargner vos familiarités, je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous. Oh là là! Qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent où sont les pales? En ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, alors voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous demande. Pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui. En effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans les glaces? J'imagine qu'il y a de certains moments où je le regarderai de tous mes yeux, de tous mes yeux, hein, allons, allons, il n'y a rien à cacher, je vous dis que je n'ignore rien de ma position, voulez-vous? Je vous raconte comment cela se passe. Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard est hors de l'eau et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze. Quel cauchemar. Allons. On vous a sans doute défendu de me répondre, je n'insiste pas, mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris, je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents, pas de lit non plus. On ne dort jamais, bien entendu, le garçon, dame. Garçon, je l'aurais parié, pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles, vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir? Vous vous allongez sur le canapé, pff, le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever, tout recommencer. Le garçon, que vous êtes romanesque. Taisez-vous, je ne crierai pas, je ne gémirai pas, mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque? Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil? Regardez-moi, j'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elles sont atrophiées. Le garçon, mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous? Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait un petit éclair noir, un rideau qui tombe, qui se relève, la coupure est faite, l'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4 000 repos dans 1 heure, 4 000 petites évasions, et quand je dis 4 000, alors je vais vivre sans paupières. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre, faites un effort, je suis d'un caractère taquin, voyez-vous, et là-bas, il y avait des nuits, je dormais, j'avais le sommeil douillet, par compensation, je me faisais des rêves simples, il y avait une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées, parbleu, c'est ça, votre jour. Et dehors, le garçon ahuri, dehors, dehors, de l'autre côté de ces murs, il y a un couloir. Et au bout de ce couloir, il y a d'autres chambres, d'autres couloirs, des escaliers, et puis, c'est tout. Vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons au troisième étage. J'aurais dû m'en douter. Oui, l'interrupteur, il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant, mais je ne me rappelle pas quel effet à cet âge-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Le garçon, vivre. Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Le garçon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir. Attendez. C'est une sonnette, là? Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir? Le garçon, en principe, oui, mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Garcin appuie sur le bouton. Elle marche. Elle marche. Mais ne vous emballez pas, ça ne va pas durer. Allons, à votre service. Je... Et ? Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez bien. Un coupe-papier. Il y a des livres ici ? Non. Alors à quoi sert-il ? C'est bon. Allez-vous-en. Et à ce moment-là, entre le premier personnage féminin de la pièce, Inès. On va peu à peu découvrir qui est Inès. Inès, ah, garçon, où est Florence? Je vous demande où est Florence, je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé, la torture, par l'absence, eh bien c'est manqué. Florence était une petite sotte, je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau? C'est une mépris tout à fait amusante, le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé, et vous avez pensé, c'est le bourreau? Quelle extravagance! Le garçon est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre, le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même ancienne, madame. Inès Serrano, mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue, ainsi. Vous me trouvez la mine d'un bourreau? Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. C'est trop drôle, et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis, je me suis regardé dans la glace. Dans la glace? C'est à ce moment qu'ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur, je ne prends pas la situation à la légère, je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Inès, ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée, tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Personnellement, je préfère rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre. J'ai besoin de me recueillir, mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je ne fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Inès, je ne suis pas poli. Garcin, je le serai donc pour deux. Inès, le regardant. Votre bouche, plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Oh, je vous demande pardon, je ne me rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Garçon, vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Garçon, je ne sais pas. J'attends. Et peu après, arrive le dernier personnage de la pièce, Estelle. Au fil de leurs échanges, rappelons qu'ils sont tous les trois enfermés dans la même pièce dont ils ne peuvent pas éteindre la lumière, qui n'a pas de miroir. Et on va découvrir la réalité de chacun d'eux, enfin la réalité terrestre de chacun d'eux, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant qu'ils soient condamnés à l'enfer. Inès, qui est homosexuelle, a été tuée par son ami. Et la dite amie s'est suicidée. Estelle a eu un enfant qu'elle a tué. Et le père de cet enfant, son amant, s'est suicidé. Quant à Garcin, et ce n'est pas un hasard si Sartre l'a placé dans sa pièce à cette époque-là, c'est un écrivain pacifiste, en fait un déserteur, qui a toujours vécu sur des mots ronflants et qui finalement a été rattrapé et fusillé. Et ces trois êtres vont continuer à jouer le jeu qu'ils n'ont pas complètement assimilé, le jeu de l'au-delà, le jeu de lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là que, dans la pièce, un des personnages dit « L'enfer, c'est les autres ». Belle formule. Belle formule qu'on a reprise et reprise à l'infini. Et comme toutes les belles formules, quand on réfléchit un peu, on se rend compte que c'est certes bien tourné, mais que ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Alors, Ils vont essayer de survivre, enfin de survivre non, puisqu'ils ont l'éternité devant eux. Ils vont essayer de s'accoutumer l'un à l'autre. Inès va essayer de séduire Estelle. Estelle va essayer de séduire Garcin. Et finalement, dans les deux cas, cela va être un échec. Un échec parce que comment s'aimer sous le regard des autres, surtout lorsque ce regard est chargé de haine et de rancœur. Alors, revenons à cette formule clé de la pièce. L'enfer, c'est les autres. Sartre lui-même trouvait qu'on avait accordé un peu trop d'importance à cette formule. Voici ce qu'il écrivait à propos, justement, de cette phrase. J'ai voulu dire l'enfer, c'est les autres, mais l'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, vicieux, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont, au fond, ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente en moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors, en effet, je suis en enfer. Parce qu'il dépend trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Je vous propose un court extrait des échanges entre ces trois êtres. Estelle, regarde-moi, mon chéri, touche-moi, touche-moi, mets ta main sur ma gorge. Laisse ta main, laisse-la. Ne bouge pas, ils vont mourir. Un à un, qu'importe ce qu'ils pensent, oublie-les. Il n'y a plus que moi. Ah, tu penses trop. Garcin, que faire d'autre autrefois? J'hésitais à revenir un seul jour au milieu d'eux. Mais je suis hors jeu, ils font le bilan sans s'occuper de moi. Ils ont raison, puisque je suis mort, fait comme un rat. Je suis tombé dans le domaine public. Estelle, doucement, Garcin. Tu es là, eh bien, écoute. Tu vas me rendre un service. Non, ne recule pas, je sais. Cela te semble drôle qu'on puisse te demander le secours. Tu n'as pas l'habitude, mais si tu voulais. Si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon, voix. Ils sont 1000 à répéter que je suis en large. Mais qu'est-ce que c'est 1000 s'il y avait une âme, une seule pour affirmer de toutes ces forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis proche. Je suis sûr que je serai sauvé. Veux-tu croire en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. Estelle, riant, idiot. Cher idiot, penses-tu que je pourrais aimer un lâche? J'aime les hommes, garçon. Les vrais hommes à la peau rude, aux mains fortes. Tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche. Tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. C'est pour ta bouche, pour ta voix, pour tes cheveux que je t'aime. C'est vrai? C'est bien vrai, veux-tu que je te le jure? Alors je l'ai dit, fille. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Inès éclate de rire. Ignace Mézène ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être si naïf, Estelle? Suis-je un lâche? Si tu savais ce qu'elle s'en moque. Estelle ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Ignace, mais oui, fais-lui donc confiance, elle a besoin d'un homme, tu peux le croire, d'un bras d'homme autour de sa taille, d'une odeur d'homme, d'un désir d'homme, des yeux d'homme pour le reste. Elle dirait que tu es Dieu le Père si cela pouvait te faire plaisir. Estelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Estelle? Que veux-tu que je te dise? Je ne comprends rien à toutes ces histoires, que tout cela est donc agaçant. Même si tu étais un lâche, je t'aimerais là. Ça ne te suffit pas, garçon ou de femme. Vous me dégoûtez. Et la pièce va se poursuivre et s'achever sur ces simples mots dits par garçon. Eh bien, continuons. Alors, est-ce que Huis clos est une pièce majeure de notre répertoire dramatique? Disons que la pièce a été reprise en 1954 dans un film de Jacqueline Audry. C'est avec Arletty, Gabi Sylvia, Franck Villard. Elle a également été reprise en 1965 à la télévision dans une mise en scène de Marcel Mitrani avec Michel Auclair, Judith Magre. Depuis, en 1990, elle a été créée à la Comédie Française, mais la Comédie Française ne se dépêche jamais de créer des pièces contemporaines. Je voudrais simplement vous citer ce que Drieu La Rochelle a écrit dans son journal au moment de la création. Huis clos, c'est bien fait, mais c'est la moindre des choses. C'est si facile de faire bien quand on fait si court. C'est même trop bien fait. Tout repose sur un effet. Cela fait penser à un roman policier. Tout est dans le mécanisme de surprise. Et pour assurer le fonctionnement du mécanisme, la psychologie est bannie. Par définition, comme dans le roman policier, il faut que dans cette pièce philosophique, il faut que les personnages soient des quantités égales et interchangeables et non des qualités. Ces trois personnages sont la banalité même. N'importe quel lâche, n'importe quelle femme du monde, cela fait réalisme intégral. Et il n'y a pas ce contre-romantisme qu'il y a dans le naturalisme. Ces personnages ne sont pas chargés, colorés, l'auteur n'en remet pas. Ce sont trois criminels de la plus grande banalité, relevant du fait divers le plus commun. Le résultat, ça devient ennuyeux comme un roman policier où la médiocrité de l'auteur sue à chaque page. Je vous remercie de m'avoir écouté.